Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à la bibliothèque de Pont-Sainte-Maxence pour une conférence autour des araignées menée par Christine Rollard et organisée par l'Agrion de l'Oise. Christine Rollard, donc bonsoir, vous êtes arachnologue, c'est ça, au Muséum d'Histoire Naturelle ?
Oui, tout à fait. Je suis arachnologue ou aranéologue, puisque je suis vraiment spécialiste des araignées, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
Qu'est-ce que c'est la différence entre arachnologue et aranéologue ?
Aranéologue, c'est vraiment spécialiste du groupe des araignées. Et les araignées font partie d'un grand ensemble qu'on appelle les arachnides. Mm-hmm. Donc du coup, on peut aussi parler d'arachnologue dans ces cas-là.
Vous avez parlé des araignées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire sur les caractéristiques, pas toutes les caractéristiques des araignées, mais sur les grandes familles, combien il y en a. Et ce n'est pas un insecte non plus.
Alors, ce n'est pas un insecte, donc morphologiquement, très rapidement, 8 pattes pour les araignées, 6 pattes pour les insectes, pas d'antennes chez les araignées, des antennes chez les insectes, 2 parties dans le corps chez les araignées, 3 parties chez les insectes. C'est quelque chose de très rapide.
Qu'est-ce qui leur manque de troisième partie qu'ils n'ont pas ?
Il n'en manque pas, mais c'est juste la tête et le thorax qui ont été réunis en une seule, qu'on appelle un céphalothorax. Et ensuite, il y a l'abdomen, bien évidemment. Ensuite, on est sur une très grande diversité au niveau des araignées, les insectes aussi, hein, bien sûr, mais les araignées, on est à plus de 51 500 espèces décrites à l'heure actuelle, en 135 familles différentes. Donc, je pense que quelque chose qui est à noter, c'est vraiment leur diversité et qui est souvent insoupçonnée dans la tête des gens. Et c'est très, très, très diversifié.
Mais ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, qui vont les observer, qui en découvrent de nouvelles. Il y a vraiment des gens qui passent leur temps à regarder où sont les araignées, qu'est-ce que c'est comme type d'araignée. On a du mal à imaginer ça,
Évidemment. Mais
comme les oiseaux.
Comme les oiseaux, comme les mammifères, comme les serpents. En fait, on est entouré de tout un tas d'animaux, de plantes, de minéraux. Tout ça, il faut le décrire pour savoir dans quel monde on vit. Mm-hmm. Donc, bien évidemment, il y a des gens, et il faut défendre un peu cette science fondamentale qui est la description du monde qui nous entoure et du monde vivant. Et c'est les systématiciens, c'est-à-dire les gens qui font de la systématique, de la taxonomie, qui vont nommer, qui vont décrire, qui vont découvrir des espèces nouvelles et qui vont enrichir les connaissances sur tous ces mondes-là, dont les araignées qui sont souvent méconnues. Donc c'est important et la base de toute science, à mon avis, même si après on veut faire des applications, il faut bien savoir de quel animal ou de quelle plante sont issus les venins, les produits qu'on va utiliser après dans la naturopathie, etc., enfin dans n'importe quelle technique ou des sciences qu'on va pouvoir développer derrière.
Pourquoi vous vous intéressez aux araignées ?
Ça m'est tombé dessus par hasard, en fait. Hein. C'est au cours de mon cursus universitaire, je m'intéressais bien aux petites bêtes et à la nature en général et au fonctionnement un petit peu des écosystèmes. Et puis on m'a proposé un sujet sur des insectes qui mangent les œufs d'araignées pour ma thèse. Et donc je suis rentrée dans le monde des araignées par les insectes qui s'en nourrissent. Et ensuite, j'ai eu un poste au muséum uniquement sur les araignées, la description, leur écologie, leur biologie, et voilà. Donc ça a été le hasard, mais il a bien fait les choses.
Donc, quelques caractéristiques supplémentaires sur les araignées ?
Une diversité, encore une fois, de la forme, de la reproduction, des modes de chasse, puisqu'en fait, il y en a qui chassent avec toile et d'autres sans toile. On a qui sautent, il y en a qui courent, il y en a qui font de la chasse à l'affût. Les toiles peuvent être en tube, en réseau, en nappe, géométrique. Donc, c'est vraiment très, 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 très diversifié au niveau des techniques de chasse. Il y a même des espèces tropicales qui jouent au lasso, il y en a d'autres qui jouent au gladiateur. Donc, on a vraiment une grande, grande, grande diversité. Et puis après, il y a les soins aux jeunes aussi pour un certain nombre d'espèces, de femelles qui vont protéger, faire des beaux cocons pour bien protéger les œufs et les petits. Et après, certaines qui vont porter leurs œufs avec elles, devant, derrière, qui vont s'enfermer dans des loges de ponte. Donc, on ne peut pas parler de l'araignée. Il faut toujours parler des araignées au pluriel. Mm-hmm. On ne peut pas généraliser, en fait, le monde des araignées.
Rain drops on roses and whiskers and kittens.
Pourquoi les gens ont peur des araignées ?
Alors c'est une peur qui est quand même, c'est vrai, 40-50% des gens disent avoir peur, surtout dans nos pays occidentaux, et c'est vraiment très culturel. Dans d'autres pays, vous n'avez pas du tout de l'arachnophobie, hein, ça n'existe pas.
Notre culture,
c'est vraiment, c'est bien ancré, puis c'est bien entretenu aussi, à l'heure actuelle, par films, médias. On est toujours avec les sorcières. Il y a aussi, pour remonter un peu, on ne connaît pas l'origine exacte, en fait, par rapport à nous, mais il y a des écrits anciens qui relatent les araignées de façon assez négative, ou même des écrits religieux.
Des inventions, en fait.
C'est beaucoup d'idées fausses, et beaucoup d'idées reçues, et qu'il faut combattre. Mais comme on n'est pas très nombreux à travailler sur les araignées, c'est vrai que il faut s'atteler à la tâche pour essayer de changer un peu son regard et de se mettre à leur échelle, sachant qu'elles, elles ne le perçoivent pas.
Votre métier, c'est de comprendre la manière dont elles vivent, dont elles fonctionnent.
Et mon métier de chercheuse, c'est ma thématique de recherche, c'est plus effectivement sur l'analyse de la biodiversité, la description de nouvelles espèces, savoir aussi quelle est leur répartition, etc. Je fais pas que de la recherche non plus. Je suis pas une chercheuse, de pointe par rapport à d'autres. J'ai fait des missions, j'ai beaucoup d'araignées à déterminer maintenant qui sont dans des bocaux dans l'alcool en train d'attendre. Je pourrais pas finir tout ça.
Vous vous baladez dans le monde pour aller les découvrir.
Je suis allée dans différents endroits. Je suis moins partie que d'autres, mais je suis allée dans différents endroits en Afrique, dans les petites Antilles, dans les Comores, en Asie, pour aller les chercher parce qu'il y avait pratiquement rien de connu sur les araignées. Dans beaucoup d'endroits, même en Guadeloupe, on peut dire que la Guadeloupe, c'était quelque chose de connu. Alors, il y a quelques années, on a fait des missions là-bas, on connaissait pratiquement rien. Et il y a des centaines d'espèces, donc en Guadeloupe aussi.
Brown paper packages tied up with string.
Parlez-moi des soies sensorielles.
Les araignées, en fait, on est dans un monde soyeux, sensoriel, solitaire. C'est des prédateurs qui vivent en général tout seuls et qui peuvent se manger du coup entre elles. C'est un gros prédateur, ce sont les araignées elles-mêmes. Et puis, pour ressentir leur environnement, les proies et les prédateurs éventuels aussi, parce qu'elles sont mangées par d'autres animaux, elles ont sur le corps des soies. C'est des sortes de poils, mais on peut parler plus de soies, qui vont percevoir leur environnement. Et les vibrations, les tapotements, les ondes, les odeurs. Donc elles ont les cinq sens, elles ont la vue avec les yeux. Et elles ont le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher grâce aux soies sensorielles.
Elles ont six yeux aussi, j'ai appris pendant cette conférence. Entre six et huit même,
je crois.
Pour
la majorité d'entre elles, c'est six ou huit, tout à fait. Et qui sont fixes, à vision courte, mais qui sont fixes et qui sont souvent positionnées soit vers l'avant, vers le côté, vers le haut et vers l'arrière. Ce qui lui fait, avec le champ de vision de chacun des
360 degrés.
Donc c'est quand même très pratique.
Et parlez-moi du ballooning.
Alors, qu'est-ce que le ballooning ? Le ballooning, c'est ce qu'on appelle la dispersion aérienne. Donc elles vont utiliser leur fil de soie, puisque toutes les araignées produisent des fils d'un matériau qu'on appelle la soie. Et grâce à ces fils de soie qu'elles vont émettre par des tubes à l'arrière du corps, qu'on appelle des filières, elles vont laisser dévider des fils de soie. Avec le moindre souffle d'air, ça va s'étirer et elles vont à un moment donné lâcher leur support et se laisser emporter, tel un aéronaute, pour aller coloniser d'autres milieux, quelquefois tomber très près, mais quelquefois s'envoler très loin,
faire des kilomètres.
Bien évidemment, elles peuvent être aussi, elles peuvent mourir aussi dans le ciel, elles peuvent être mangées par des oiseaux, des chauves-souris, elles peuvent retomber dans des milieux qui ne sont pas du tout propices à leur installation, en pleine mer, dans l'eau, et ce n'est pas une araignée aquatique, donc ça ne marchera pas. Et puis, se retrouver sur des ballons sondes, et puis bon, il y a quand même du froid là-haut, donc ça peut aussi les faire mourir. Donc il y a beaucoup de pertes à ce moment-là. Sur des cocons qui peuvent renfermer plusieurs dizaines, voire centaines d'œufs, il y a 1% qui arrivera au stade adulte. Mais c'est une méthode qui leur a permis de coloniser un peu tous les milieux qu'on a sur la planète.
These are a few of my favorite things.
Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tuer, ça c'est vraiment pour les auditeurs, les araignées chez soi ?
Tout organisme a
le droit de vivre.
On n'a pas vraiment de chez nous, on a forcément d'autres organismes autour de nous. les plus petits, les acariens, tout un tas de petites bestioles.
Aussi chez eux.
Et chez sont nous. Aussi chez eux, dans les petits tas de poussière, dans des creux, dans des angles, etc. Ils font leur office d'insecticides naturels pour certaines, comme les araignées, mm-hmm. pour d'autres de détritivores et se nourrissent de tout ce qu'on laisse, etc. Les petits acariens du lit, de squame de nos peaux. Donc, tout ça, ça vit en équilibre de toute façon. Et donc, pourquoi se permettre de changer le mode de vie des araignées qui, dans nos habitations, vivent dans des endroits abrités? C'est la nature pour elles.
Elles
ne nous gênent pas, elles ne nous pondront pas sous la peau, on n'ira pas les avaler pendant qu'on dort, elles ne viendront pas nous mordre exprès, elles ne transmettent pas de maladie. En fait, il n'y a rien de négatif.
C'est ça, elles ne sont pas du tout agressives en fait, vis-à-vis de l'homme, contrairement à ce que certains pourraient croire.
Exactement. Donc, que du positif, je pense.
Vous pouvez nous donner une conclusion sur les araignées? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire?
D'apprendre un petit peu à mieux les connaître et de laisser ces animaux qui ont souvent, on va dire, un peu un délit de sale gueule quand même, vivre comme tout un tas d'autres, hein, et en leur laissant jouer le rôle qu'elles ont dans l'équilibre naturel. Elles sont vraiment indispensables, comme beaucoup d'autres organismes, mais c'est vraiment aussi des animaux qu'il faut respecter et qu'il faut accepter, d'autant plus qu'il y en a quand même, comme d'autres animaux, comme les oiseaux ou certains insectes, qui disparaissent ou il y a des chutes de population. Donc laissons vivre tous ces animaux-là, ils participent à l'équilibre naturel.
Et elles ne sont pas protégées, donc, hein.
Donc pas de protection, ce qui n'est pas forcément à préconiser non plus. Il faut d'ailleurs avoir des bonnes connaissances pour dire tel animal est protégé, parce que vraiment, là, il n'y en a plus que quelques individus. Donc on le fait pour des oiseaux, des mammifères, des animaux avec beaucoup moins d'espèces. Là, c'est plus difficile. Il faut vraiment des études particulières. Mais ce qui est à privilégier vraiment, c'est la protection des milieux et des habitats. Hein, il faut arrêter de détruire et d'assécher les milieux, de polluer. Donc c'est surtout ça. Et à partir de là, ça participera à garder aussi l'équilibre avec tous les organismes.
De toute façon, c'est ce qu'on fait. On détruit les milieux, en fait, c'est pour ça. N'importe quel animal. L'homme est nuisible, n'est-ce pas?
Bien que le terme de nuisible, peut-être qu'il ne faut plus l'utiliser, mais bon, il est quand même gros prédateur. Et effectivement, il fait beaucoup de dégâts quand même. Voilà.
Ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup.
Merci Christine.
These are a few of my favorite things.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à Pont-Sainte-Maxence à la bibliothèque pour une conférence sur les araignées par Christine Rollard, qui est aranéologue au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Cette conférence, la venue de cette spécialiste des araignées, a été organisée par l'association L'Agrillon de l'Oise. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.